efficace au service et à l'action. Et pourtant, on va le voir ce matin à travers son exemple, que lui aussi s'arrêtait pour prendre du temps avec son père. Dieu veut prendre un temps avec toi. Dieu, il cogne à la porte. Oh, Dieu, il est assis sur sa chaise berçante. J'en ai mis deux parce que Dieu est assis là, puis il nous demande, « Hey, j'aimerais ça prendre un temps avec toi. » Dieu veut prendre un temps avec toi. Et c'est ça qu'on va voir ce matin. On va voir ce matin que Dieu veut prendre un temps avec chacun d'entre nous. Puis nous nous demandons souvent comment est-ce qu'on peut incorporer ça, finalement, une méditation authentique dans ma vie chrétienne. Et puis, il existe plusieurs points essentiels dans la méditation ou dans le temps qu'on prend avec Dieu, dans notre marche, dont notre marche de foi peut considérablement bénéficier. On peut parler de l'Église. Il y a des choses importantes dans la mission de l'Église qu'on va parler, qu'on peut parler au courant de l'année, mais une Église en santé, une Église qui avance, une Église qui marche, c'est premièrement avec les individus qui, chacun d'entre eux, ont une relation avec Dieu, ont une marche avec Dieu. Et c'est ça qu'on va voir ce matin, ce point tournant-là de notre relation avec Dieu. Première chose qu'on voit ce matin, Dieu veut prendre un temps avec toi aujourd'hui. Réserve-le-lui. Réserve ce temps-là à Dieu. Dieu veut prendre un temps avec toi. Réserve-le-lui. Tournez avec moi dans 1 Pierre 2. 1 Pierre 2:7. Pour la très forte majorité d'entre nous, qu'on a un temps réservé pour manger au moins une fois dans la journée. Je suis convaincu. Peut-être que vous dites, ben moi, je passe le petit déjeuner. Mais quand arrive votre heure du dîner, là, vers midi, là, est-ce que c'est un temps que vous avez réservé pour manger habituellement? Quand vous revenez du travail vers 5h, 5h30, est-ce que c'est un temps que vous avez habituellement de réserver pour manger? Hein? C'est dans le plus loin qu'on peut penser, de toutes les nations, de toute époque, on a au moins 2 ou généralement 3 temps dans la journée qui sont réservés pour manger. Pour manger, pour nourrir notre corps. Et puis même, on pourrait même des fois, vous avez peut-être même des habitudes de collation, peut-être même les collations sont réservées dans votre journée. On a un temps réservé pour nourrir notre corps. Qu'en est-il du temps réservé pour nourrir notre âme, notre esprit avec Dieu, de Dieu? 1 Pierre 2, il dit, on va lire les 3 premiers versets. « Rejetant donc toute méchanceté, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Ici, on parle du lait, pas comme ce que Paul en a parlé, par exemple, pour dire « vous n'en êtes pas à l'état d'homme fait, vous devriez être à la viande, puis vous prenez du lait. » Là, c'est une autre perspective du lait qu'on donne, comme avec un nouveau-né. Et je ne sais pas si vous avez sûrement déjà vu un nouveau-né qui réclame son lait. Mais quand il veut son lait, donne-lui pas n'importe quoi d'autre. Même sa suce, et ça ne suffira pas. À un moment donné, il va crier, il va hurler, il va faire tous les temps, parce que ce qu'il veut, c'est son lait. Puis Pierre est en train de nous dire, de la même façon, désirez, regardez verset 2, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez. Pas nécessairement pour être sauvé, on est déjà sauvé, mais on croisse aussi dans ce salut-là, dans cette marche avec Dieu que l'on a dans les délivrances jour après jour que Dieu veut opérer dans nos vies. Comment est-ce qu'on désire ce lait-là? Désires-tu ce temps-là avec Dieu au point que tu dis, je vais réserver un temps dans ma journée pour nourrir mon âme avec Dieu. Je vais réserver un temps parce que Dieu veut prendre ce temps-là avec lui, puis je vais lui réserver ce temps-là. Et c'est le bénéfice que nous donne le temps qu'on passe avec Dieu, la parole que Dieu fait dans nos cœurs est tout à fait merveilleux. Le lait de la parole est pur. Il va vous nourrir d'une façon parfaite. De quoi est-ce qu'on se nourrit aujourd'hui? On va se nourrir de toutes sortes de choses, de toutes sortes de revues, de toutes sortes d'émissions de télévision, de toutes sortes d'émissions de radio, de toutes sortes de philosophies qui, évidemment, n'est pas pure. Mais est-ce que mon âme, je la nourris de quelque chose qui lui fait du bien? Imaginez si je prenais le temps de nourrir mon bébé. J'en ai un bébé, là, il y a 7 ou 8 mois, là, dans ce coin-là. Et c'est approximatif, hein? Maintenant, on compte plus les mois, là. Mais si je lui donnais du lait frelaté, c'est ça qu'on peut, on aurait pu traduire ici. Ici, excusez. Ici. Hein? Le lait qui est pas frelaté. Ça veut dire quoi, ça, frelaté? Ça veut dire qu'on met des choses à l'intérieur pour le booster. Hein? Avez-vous entendu parler en Chine du scandale du lait frelaté? Hein? On a mis à l'intérieur de la colle et du plastique pour donner une valeur plus grande en protéines dans le lait. Hein? Super. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu plusieurs enfants malades, puis des morts même aussi, à cause du lait frelaté donné au bébé. Bien ça, là, c'est ce que notre monde peut constamment nous donner, ce type de lait-là frelaté qu'on peut désirer. Mais le lait que la parole nous donne, le lait que Dieu me donne quand je m'assois avec lui, ça vaut la peine que je dise à Dieu, « Dieu, j'ai réservé un temps avec toi ce matin, ou cet après-midi, ou ce soir, ou dans la journée, parce que je vais être nourri de toi. Je consacre au moins 3 portions dans ma journée pour nourrir mon corps. Je vais en consacrer une pour nourrir mon esprit, mon âme de toi, Dieu. Parce que je désire ça. Je le désire. » Est-ce que vous avez goûté que Dieu est bon? Regardez verset 3. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, plus on goûte que Dieu est bon, plus on en veut. Vous êtes d'accord? Plus on mange du sucre à crème, plus on en veut. À un moment donné, il faut arrêter là, pour le sucre à crème. Mais le lait de la parole de Dieu, là, le lait que j'ai avec Dieu, plus c'est bon, plus j'en veux et plus je le désire. Et c'est bon que de désirer ça parce qu'il est pur pour moi. Les Écritures nous parlent, on aurait pu citer Jésus, j'ai apporté plein de citations, puis je ne les donnerai pas tout. Mais même Jésus, il dit, l'homme n'a pas besoin de pain pour vivre seulement, mais de toute parole que Dieu prononce, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est de ce lait-là, c'est de cette parole-là, de ce pain-là que j'ai besoin. Est-ce que tu as consacré un temps avec Dieu? Dieu, il veut te rencontrer. Dieu, il veut prendre un café avec toi. Est-ce que tu lui as réservé ce temps-là? Peut-être vous avez, en début d'année, pris des résolutions, par exemple, de perdre du poids, de faire de l'activité physique, quoi que ce soit. À un moment donné, il faut dire, OK, je vais prendre ce temps-là pour faire une demi-heure d'activité physique, de la marche, de la bicyclette, ou peu importe. Mais il faut se trouver, à un moment donné, un temps. Et la parole de Dieu, c'est la même chose. Il faut se dire, je vais prendre un temps, un temps réaliste. Et si je pars en pleine pompe, puis je dis, OK, maintenant, 2 heures par jour. Peut-être que c'est pas réaliste, puis tu vas te décourager rapidement. Mais prendre un temps réaliste avec Dieu. De dire, je vais prendre ce temps-là avec Dieu. Je vais le réserver. De prendre un moment réaliste aussi. Hein? Il y a des périodes dans nos maisons où peut-être ça ne serait pas le bon temps de s'asseoir sur le coin de la table pour prendre le temps avec Dieu. Si vous êtes chez moi, par exemple, et vous arrivez justement vers l'heure de midi, ben, ça va être difficile pour moi de vous accueillir avec tranquillité parce que avec les 4 enfants qui courent autour de la table, ça va être difficile de s'asseoir. Mais trouver un moment réaliste avec Dieu, de trouver aussi peut-être un lieu réaliste. Ce que je veux vous encourager ce matin, Dieu veut prendre un temps avec toi, réserve-le-lui et planifie-le. Mets-le de côté ce temps-là. Comme on a 3 périodes en journée planifiées pour manger. Il y a une autre chose aussi. On mène des vies effrénées. On court à gauche puis à droite. On fait toutes sortes de choses. Mais quand le téléphone sonne, le soleil, la lune et les étoiles arrêtent leur course. Le monde arrête de bouger. Tout arrête parce que le téléphone nous réclame. Je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, là, mais dans notre société, le téléphone, quand il sonne, tout arrête. On vit dans un monde où on court continuellement et il y a bien peu de choses qui nous fait arrêter. Mais le téléphone en est un bon exemple, il nous fait arrêter. On donne une grande priorité au téléphone quand il sonne, dépendamment de l'habitude que vous avez avec le téléphone. Mais dans notre société, ça ressemble beaucoup à ça. Dieu veut prendre un temps avec toi aujourd'hui. Arrête-toi. Arrête-toi. Dans notre course qu'on a, tournez avec moi dans Psaume 46. Je vais faire lire différents versets ce matin un petit peu, dans les Écritures, un peu ici et là. Psaume 46, juste un verset, je vais vous faire lire. L'illustration de la chaise berçante, quand on est, on emmène quelqu'un dans notre salon, puis qu'on s'assoit, c'est vraiment le symbole de on arrête. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On se berce. C'est la seule chose qu'on fait, on arrête. Et Dieu veut prendre un temps avec moi. Est-ce que je m'arrête? J'ai pas mis un coin de comptoir. J'aurais pu mettre une auto aussi. J'aurais pu mettre mon travail. Est-ce que je prends le temps de m'arrêter avec Dieu quand je prends ce temps-là avec Dieu? Pour dire, et là, l'illustration, ça veut pas dire que mon temps avec Dieu doit être obligatoirement sur une chaise berçante. Mais c'est l'illustration de j'arrête. Regardez, psaume 46, le verset 11. Qu'est-ce qu'il dit? Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. C'est drôle hein, que Dieu commence comme ça. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. On court à gauche puis à droite. On se démène à faire toutes sortes de choses. On essaye de faire les choses par nos propres moyens, par nos propres mains, de toutes sortes de façons. Et là, on est pris dans une barque où il y a une tempête. Puis là, on se met à ramer comme des bons. Puis là, Dieu me dit, arrête. Je domine sur la tempête. Hein, dans l'exemple de Jésus que je suis en train de donner, arrête, puis souviens-toi que je suis Dieu. Sachez que je suis Dieu. Des fois, on pourrait se dire, j'ai pas tout à fait le temps d'arrêter, j'ai tellement de choses à faire, j'ai tellement de choses importantes, il faut arrêter. Et non seulement physiquement, mais même des fois dans nos pensées, dans nos cœurs. Et il est question ici dans ce verset-là, ben, d'arrêter. Et le terme peut signifier simplement de tout interrompre pour que nous vivions dans un monde. On vit dans un monde tellement rapide, occupé, ça peut être difficile d'arrêter, mais il faut avoir cette habitude-là que de s'arrêter. J'ai déjà entendu, malheureusement, j'ai plus besoin d'arrêter. J'ai tellement lu les Écritures de toute façon dans le passé que je les connais bien maintenant. J'ai plus besoin d'arrêter pour la lire. J'ai entendu ça. Peut-être que vous l'avez entendu aussi. Peut-être même entendu, j'ai pas besoin d'arrêter pour prier avec Dieu, pour prier Dieu. Parce que de toute façon, au courant de ma vie, au courant de ma journée, je vais prier un peu constamment pour un peu pour les situations qui se présentent à moi. C'est bien, mais est-ce que c'est uniquement ça l'habitude de prière, que de prier en flèche comme ça ici et là au courant de ma journée, ou est-ce que je m'arrête pour me souvenir que Dieu est Dieu puis qu'il domine sur toute chose? Est-ce qu'on a la foi qu'arrêter avec Dieu, c'est bon? Il domine sur toute chose. Il contrôle toute chose. Et si je ramène ça à l'exemple des disciples qui, eux, auraient pu se dire, arrêter de ramer, c'est pas la bonne chose parce qu'on est en danger. Et pourtant, c'est ça qu'ils auraient dû faire. Arrêter de ramer et de se tourner vers Jésus puis dire, Jésus intervient. Dans tous les aspects de nos vies, on devrait premièrement s'arrêter puis demander l'intervention de Dieu. Peut-être qu'on économiserait beaucoup de temps, finalement. Peut-être qu'on économiserait beaucoup d'énergie. Arrête et prends le temps de réaliser avec qui tu es. La vie, la vraie méditation exige que nous nous concentrions sur une seule chose, le Dieu Tout-Puissant. Qu'on se concentre sur Dieu. Une autre chose aussi, Dieu veut prendre un temps avec toi. On a vu que Dieu veut prendre un temps avec moi aujourd'hui. Est-ce que je vais m'arrêter? Est-ce que je vais lui réserver ce temps-là pour lui? Et une troisième chose, retire-toi avec lui. Je fais juste relever des principes qu'on trouve dans les Écritures. Est-ce que ça veut dire que si je suis pas retiré avec lui dans un lieu X, que ce temps-là est vain? C'est pas ça que je dis non plus. Mais je parle que dans un temps où ce que je peux avoir avec Dieu, que je vais me retirer avec lui, ça peut être une bonne chose. Et en fait, c'est le témoignage que Jésus nous a laissé. C'est le témoignage, l'exemple que Jésus nous a donné. Regardez, tournez avec moi dans Luc 5. Si vous voulez avoir une conversation avec quelqu'un, quelqu'un vient, cogne chez vous, bien j'aimerais ça qu'on prenne un café ensemble. À quel endroit allez-vous le conduire pour prendre ce café-là avec cette personne-là? Naturellement, on le sait bien, on va le prendre puis on va s'en aller dans un coin un peu plus retiré pour avoir un temps où on va avoir l'occasion de vraiment prendre un temps de communion ensemble. Et Jésus nous a laissé cet exemple-là. Luc 5, on va lire les versets 15 et 16. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Les foules couraient après Jésus. Il était de plus en plus populaire. Les gens le sollicitaient pour toutes sortes de choses. Jésus, on aimerait ça avoir du pain. Jésus, on aimerait ça être guéri. Jésus, on aimerait ça que tu nous fasses des miracles. On aimerait ça que tu fasses ça ici. Et toutes sortes de choses. Et puis Jésus répondait à plusieurs des besoins de l'humanité, évidemment. Mais lui, il avait un besoin aussi. C'était de se retirer avec son Père et de lui parler avec lui. Jésus, sans dire que de lutter dans sa chair, il a dû lutter avec le temps de dire, voici le temps que je prends avec mon Père. Et pour ça, pour avoir ce temps-là efficace, je vais me retirer avec lui. À un moment donné, les disciples, je vais vous faire une citation dans Marc 6, à un moment donné, les disciples étaient partis faire toutes sortes de choses, des services, ils étaient partis faire des guérisons, des enseignements. Puis à leur retour, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui rendirent compte de tout ce qu'ils avaient fait et de tout ce qu'ils avaient enseigné. Alors Jésus leur dit, « Venez avec moi dans un endroit isolé et vous prendrez un peu de repos. » Hein? C'est Jésus qui dit ça à ses apôtres. Ils reviennent isolés d'avoir fait toutes sortes de choses, mais Jésus leur dit, « Venez avec moi dans un endroit isolé et vous allez prendre un peu de repos. » Un de mes garçons a reçu une piste de course. Une piste de course, tu sais, qui tourne en rond. Puis à un moment donné, dans un point de la piste, il y a comme deux roulettes qui tournent continuellement, qui propulsent l'auto. Pfiou, faire un tour, puis là, elle finit sa course, puis pouf, elle pogne le boost là, des deux roulettes. Et puis, elle est supposée de tourner comme ça en bas. Mais c'est où? C'était quoi le problème? C'est les batteries qu'on avait mis dedans, elle avait déjà été utilisée un peu. Et puis là, l'auto a passé, elle faisait pouf, puis là, elle arrêtait. Avant de pogner les deux autres roulettes. Et là, on donne une petite pichenote, elle repart. Puis là, oups, il arrête encore. On donne une petite pichenote, elle repart. Puis finalement, c'était pas le fun, là. Fallait continuellement avancer la petite roulette. Et là, ce qu'il faut faire, c'est qu'on arrête la piste de course. On sort les batteries de là, puis on les place sur le chargeur. On les isole, on les place de côté, puis il va te ressourcer un peu. Hein? Et là, on les reprend, puis là, on les remet sur la piste de course, et là, tout d'un coup, l'auto, elle se met à tourner, puis elle fait ce qu'elle devrait faire. Qu'en est-il, nous, de notre ressourcement? Hein? Quand votre corps est fatigué, quand mon corps est fatigué, je m'en vais m'isoler dans mon lit. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais à un moment donné, ça fait du bien. Hein? On peut aller s'isoler dans notre lit, et là, on fait dodo. Quand on a besoin d'être ressourcé physiquement, on a bien des moyens. Mais spirituellement, vous faites quoi? Spirituellement, je fais quoi? J'ai ce besoin-là que de me retirer avec Dieu pour recharger mes batteries parce que je fais pas la job. Parce que finalement, j'ai besoin de me ressourcer avec Dieu. Dieu, il veut prendre ce temps-là avec moi parce qu'il sait que c'est bon pour moi. Puis moi, je devrais savoir que c'est bon aussi que d'avoir ce temps-là, de prendre avec Dieu pour m'isoler avec lui puis me ressourcer en lui. Jésus nous a montré que lui, son besoin d'isolement avec le Père était plus que quotidien. Hein? On voit Jésus continuellement se retirer avec son Père. Si Jésus avait ce besoin-là, c'est quoi, moi, mon besoin? Y es-tu inférieur à ça? Certainement pas. J'ai un besoin, comme Jésus avait ce besoin-là d'être avec son Père, de relation, j'ai ce besoin-là, au moins quotidiennement avec Dieu, pour dire... J'ai besoin d'être ressourcé avec toi, Dieu. Il y a des moments dans nos vies, peut-être, où on a l'impression qu'il n'y a plus l'énergie, il n'y a plus le goût, ça n'avance plus. Et il peut y avoir différentes circonstances, on pourrait parler longtemps sur ça. Mais une chose importante, c'est de se retirer avec Dieu continuellement pour être avec Dieu, pour prendre ce temps-là de café avec lui, de réserver ce temps-là. On a vu que de réserver un temps pour Dieu, Dieu veut être avec moi, puis il veut que je lui réserve ce temps-là. On a vu aussi je lui réserve le temps, je vais me retirer avec lui, et puis je vais m'arrêter aussi avec lui. Il y a un autre point aussi qui nous rend mal à l'aise un petit peu des fois avec Dieu. En fait, c'est un point qui nous rend mal à l'aise plus qu'avec Dieu, qui, généralement, dans notre société, c'est quelque chose qui nous rend mal à l'aise. Voulez-vous que je montre c'est quoi? On va essayer. C'est gênant, hein? Le silence. Silence, c'est gênant. C'est peut-être intimidant. On dit que le premier qui brise le silence, c'est le plus mal à l'aise des deux. Bon, c'est ce qu'on dit, je ne sais pas si c'est vrai. Mais prendre un temps de silence avec Dieu, d'être en silence devant Dieu. Tournez avec moi dans le psaume, j'ai apporté plusieurs citations. Bon, commençons avec psaume 37, si vous étiez déjà là. Non? Est-ce que je peux avoir un temps avec Dieu où je vais m'asseoir avec lui, je lui ai réservé ce temps-là, je me suis arrêté, je me suis retiré, puis à un moment donné, je parle pas. Est-ce qu'à un moment donné, quand vous avez reçu du monde chez vous, que quand vous prenez votre café avec lui, vous avez constamment parlé jusqu'à la fin? Hein? Ça serait une faible relation, là. Ça serait une faible communion. Hein? Je parle constamment, puis l'autre personne a fait juste écouter constamment. Des fois, on fait ça, hein, dans nos prières. On prie, puis on enchaîne toutes nos requêtes jusqu'à la fin. Pouf, on met le point à la fin. C'est fini. Hein? Sans laisser à Dieu le temps de répondre. Ben, il va répondre. Il veut répondre, évidemment. Mais prendre le temps avec Dieu où je lui laisse l'occasion aussi de me parler. Évidemment, Dieu me parle par sa parole. Puis je devrais l'écouter, puis je devrais prendre ce temps-là pour écouter Dieu. Puis je devrais prendre le temps de parler à Dieu aussi par la prière. Et même dans la prière, ça se peut qu'à un moment donné, je puisse garder le silence avec Dieu. On est aussi dans notre société qui, ça peut être différent évidemment de chacun des individus. On peut arriver dans notre auto, puis spontanément, qu'est-ce qu'on fait? On met la radio. Hein? Parce qu'on n'a pas nécessairement le silence dans l'auto. On arrive à la maison, puis qu'est-ce qu'on fait? On rouvre la boîte à grimaces. La boîte à grimaces, vous savez, c'est quoi ça? C'est la télévision. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est péché. Là. Je ne parle pas que la radio, c'est péché, la télévision, c'est péché. Mais de constamment avoir ce bourdonnement-là autour de nous qui nous empêche peut-être que d'arrêter et de garder silence avec Dieu. Et particulièrement dans un temps de relation avec lui. Psaume 37, 7. Gardez le silence devant l'Éternel et garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Et là, on peut continuer, ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Mais il commence en disant, garde le silence devant Dieu. Ecclésiaste, il nous dit, il y a un temps pour garder le silence et il y a un temps pour parler. Mais il y a un temps pour le silence et on devrait en profiter. On devrait en profiter que des fois Dieu va nous parler. Lamentation 3, 26, il est bon d'attendre en silence de l'Éternel la délivrance. D'attendre Dieu en silence. Ésaïe 30, 15, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. La tranquillité, le calme. Prendre un temps avec Dieu où je me suis arrêté et à un moment donné aussi où je garde le silence dans mes pensées, dans mon cœur. Ça se peut qu'on donne toutes sortes de requêtes à Dieu. Dieu nous dit dans Philippiens, « Fais-moi connaître tes besoins par des prières, des supplications, des actions de grâce, et la paix que je vais te donner, qui surpasse toute intelligence, va garder ton cœur, tes pensées en moi. » Est-ce que je m'assois, puis des fois je garde le silence, pour que Dieu me communique aussi cette paix-là? Qu'à travers ma prière que je lui ai donnée, que je prenne le temps de simplement garder le silence et d'attendre en silence devant Dieu. Ecclésiaste le disait, il y a un temps pour parler, il y a un temps pour écouter aussi, pour garder le silence. Je veux terminer ce matin avec une dernière chose que je pense qui est importante. Dieu veut prendre un temps avec toi. Je vais lui réserver ce temps-là. Je vais m'arrêter. Je vais me retirer avec lui. En certaines occasions, je vais garder le silence. Et une chose importante aussi avec Dieu, c'est d'être transparent. Dieu, ce qu'il veut, c'est de prendre ce café-là avec moi. C'est manger avec toi, puis toi avec moi. C'est ce que Dieu nous dit. Et ce qui est essentiel dans ce temps de relation-là que j'ai avec Dieu, c'est la transparence. D'être transparent avec lui. On va faire une dernière lecture, si vous voulez bien. Tournez avec moi dans Jean 5. Jésus avait reproché quelque chose aux pharisiens, peut-être aux scribes. C'est des gens qui connaissaient beaucoup les Écritures, hein? Est-ce que ma relation avec Dieu est directement proportionnelle avec ma connaissance des Écritures? Évidemment que non. Est-ce que ma connaissance, même ma capacité intellectuelle peut être limitée puis que j'ai une excellente relation avec Dieu? Absolument. Absolument. Et les scribes, les pharisiens, ils avaient une connaissance qui surpasse de loin la mienne, j'en suis convaincu. Et chacune de la nôtre probablement aussi. Et dans Jean 5, 39, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. » Vous sondez les Écritures d'une façon très intellectuelle. Vous vous asseyez avec vos papiers, vos crayons, et là, vous faites une exégèse, une synthèse. Vous vous bourrez le crâne de toute la connaissance intellectuelle des Écritures, et vous pensez avoir en elles la vie éternelle, c'est-à-dire que vous pensez, à travers votre connaissance, avoir une bonne relation avec moi, avec Dieu, puis vous vous trompez. Parce que ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Les Écritures sont là pour m'amener une relation avec Dieu, pour m'amener en relation avec lui. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Les Écritures ne donnent pas la vie. Les Écritures nous conduisent à Jésus qui, lui, donne la vie, qui, lui, donne la relation avec moi. Et c'est là, est-ce que je suis en train de dire que la connaissance des Écritures est inutile? Absolument pas. Mais est-ce que ça, c'est le point tournant du temps que je prends avec Dieu de simplement intellectualiser ma relation avec Dieu ou les Écritures? Là, je me tromperais. Raph Chalice met les croyants en garde contre la tentation subtile d'étudier la Bible de façon intellectuellement seulement. Voici ce qu'il dit. La Bible n'existe pas que pour révéler, La Bible n'existe que pour révéler Dieu. On lit la Bible non pour en obtenir une connaissance académique, bien que celle-ci soit d'une utilité inestimable, mais pour connaître son auteur. La Bible, c'est le chemin qui mène à Dieu, car c'est par la Bible que nous connaissons Jésus. Les Écritures nous révèlent ce que Jésus est. Et c'est cette relation-là que je veux développer avec lui. Dans sa prière sacerdotale, dans Jean 17, Jésus il dit « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Et c'est la vérité que ce que les Écritures vont me communiquer. Tantôt, David il parlait « Quand j'accueille Jésus comme roi dans ma vie, est-ce que ça se peut qu'à un moment donné, il apporte des vérités, il apporte des constats, il apporte de la lumière sur des aspects de ma vie où est-ce que c'est vrai, Dieu, je devrais changer ça. Mais est-ce que j'ai cette transparence-là avec lui? Je devrais avoir cette transparence-là avec Dieu quand je m'assois avec lui. Dieu n'est pas un bourreau. Dieu n'a pas son fouet à la main constamment pour que quand je vais lui révéler, lui confesser une faute ou confesser une faiblesse que j'ai, son désir, c'est pas de me battre de coups de verge. Son désir, c'est que je lui confesse et qu'il me pardonne et que je me repente de cette action-là et que ma vie soit transformée par la vérité, par sa présence dans ma vie. Ça, c'est le désir de Dieu. Le rôle principal de la parole est d'exposer nos vies à la lumière. On en avait parlé avec Jacques et c'est ça le désir de Jacques, de révéler nos vies. Mais pour ça, ça prend de la transparence. Hein, pour que la lumière traverse nos vies, il faut qu'on soit transparent. Les hommes ont rejeté la lumière qu'on voit dans Jean 1 parce qu'ils n'aimaient pas la lumière. Ils ont fermé la switch. Dans notre relation avec Dieu, on devrait constamment avoir cette, cette transparence-là. Je vais arrêter là pour l'instant. J'avais finalement beaucoup d'autres choses à rajouter. Ça sera peut-être quelque chose qu'on pourra ramener. Je veux vous lancer un défi ce matin. Dieu veut prendre un temps avec toi. Dieu, il cogne à la porte, si tu es un croyant, puis il dit, j'aimerais ça passer un temps avec toi. Est-ce que toi, tu veux accueillir ce temps-là avec lui? De lui réserver ce temps-là, de t'arrêter, de lui dire que Dieu est assez important pour que tu l'emmènes en retrait, puis tu dises, on va prendre un temps ensemble. Puis de prendre le temps de l'écouter, puis d'être transparent avec lui, pour développer ma relation personnelle avec lui. C'est comme ça qu'on grandit avec Dieu. Je dis à mes enfants, ils ont hâte de devenir forts, de devenir grands. Mais si tu manges bien, tu dors bien, tu fais de la bonne activité physique, tu vas grandir, tu vas être en santé, ton corps va se porter bien. Spirituellement, ma relation avec Dieu, elle est cruciale si je veux grandir. On peut passer bien des années à dire que j'ai été sauvé. Mais c'est pas la quantité d'années, mais quelle croissance est-ce que j'ai eue avec Dieu tout au long de ces années-là? Et ça, c'est la relation que je développe avec Dieu jour après jour, en prenant ce café-là avec lui. Et le défi que je veux vous lancer, c'est de prendre un temps avec lui. Réaliste. Choisissez un temps, un moment, un lieu réaliste où vous reconnaissez votre besoin quotidien de passer un temps avec Dieu et de dire, Dieu, je vais m'engager avec toi pour lire, pour prier, garder le silence avec toi, pour m'arrêter, pour développer ma relation avec toi. Et vous pourriez utiliser plusieurs moyens. On en a apporté, j'ai apporté une table ici, vous la voyez là. Et ça, c'est seulement que des outils. Vous pouvez en bénéficier. Et si vous avez ici un modèle pour lire la Bible en un an, vous pourriez la lire en deux ans. Prenez un engagement réaliste. Vous n'êtes pas obligé de lire votre Bible trois fois dans l'année. Vous pourriez lire le Nouveau Testament dans l'année. Vous pourriez lire, par exemple, j'en ai pas une copie ici, peut-être que vous avez en contact, il va donner un texte que vous pourriez ouvrir dans les Écritures, prendre le temps de lire quelques commentaires, et ça peut prendre quelques minutes, peut-être 15 minutes, peut-être 20 minutes. Peut-être vous dites, moi je veux prendre l'engagement de lire le Nouveau Testament cette année. Vous pouvez ouvrir vos Bibles et prendre, mettons, un chapitre et demi ou deux chapitres. J'ai jamais calculé le Nouveau Testament, combien de chapitres divisé par 365, là. Mais vous pourriez lire le Nouveau Testament. Ou il y a un outil intéressant aussi, que j'ai apporté, c'est le Nouveau Testament qui est déjà divisé jour après jour. Dites, moi, je veux lire le Nouveau Testament cette année. Et puis, vous tournez, par exemple, on est le 3 janvier. C'est pas grave si vous n'avez pas fait le 1 puis le 2 là, janvier. Puis, c'est pas grave si plus tard, vous manquez 2-3 journées sans dire que vous allez déchirer votre chemise puis dire, j'ai manqué. Continuez. Continuez d'avancer. Continuez de lire, de prendre ce temps-là. Cet engagement-là, c'est une habitude qu'on peut prendre. J'ai apporté des outils. Vous pourriez prendre ça, par exemple, le Nouveau Testament. J'ai apporté, par exemple, un journal de culte personnel. Peut-être que vous n'avez pas de Bible. J'ai même apporté des Bibles à gros caractères. Vous dites, moi, les Bibles, je suis pas capable de les lire. C'est trop petit. J'en ai apporté 4 avec gros caractères. Et je peux même fournir la loupe si vous en avez besoin. Hein? Et puis même, là, j'en ai pas parlé, là, avant que je l'échappe. Je sais pas si Danny Astin est là, mais il peut même fournir aussi le Nouveau Testament, même la Bible aussi, en audio, en MP3. Prendre un temps pour écouter les Écritures aussi. Des gros caractères, des petits caractères, des traductions différentes, une Bible d'études. Prenez le temps de vous engager avec Dieu avec un engagement réaliste à la mesure de ce que vous voulez placer devant Dieu. Et si vous avez jamais fait cet engagement-là, si vous dites, moi, lire la Bible pour un an, je sais pas, je vais vous lancer un petit défi aussi. Si vous dites, un plus petit défi, si vous dites, je vais pas nécessairement m'engager pour toute l'année, je vous lance le défi de lire l'Évangile de Jean, un chapitre par jour. Vous savez ce qu'on dit? On crée une habitude en 21 jours. On brise des habitudes aussi en 21 jours ou 22. Là. Mais l'Évangile de Jean a 21 chapitres. Vous pourriez dire, OK, oui, je vais m'engager pour l'Évangile de Jean. 21 jours, un chapitre par jour. Commencez peut-être avec ça. Et après ça, si vous avez cette habitude-là, continuez. Allez avec Romain, allez avec un autre livre. Je veux vous lancer ce défi-là ce matin. Dieu, il veut s'asseoir avec toi. Dieu, il veut cette relation-là avec toi. Le roi des rois, Seigneur des seigneurs, le créateur, ton Dieu, ton Seigneur, ton Sauveur, il veut s'asseoir avec toi, prendre un café. Est-ce que tu veux répondre à ça? Puis lui dire, oui Dieu, je veux consacrer un temps pour ça. Je termine en priant. Que chacun d'entre nous, dans le fond de nos cœurs, on puisse s'engager devant lui, avec lui aussi. Seigneur, on vient devant toi pour te louer parce que ta parole, elle est bonne. Ta présence, elle est bonne. On a du plaisir, Seigneur, à te voir, te révéler à nos vies, de connaître ta volonté pour nos vies. Seigneur, tu dis que tu cognes à nos portes et que ton désir, c'est de prendre un temps avec nous, de manger avec nous, d'avoir un temps de communion. Puis Dieu, on veut répondre aussi à ça. On veut te dire que nous aussi, on a ce désir-là, de s'asseoir avec toi. Et qu'on veut s'engager, Seigneur, cette année, à ouvrir ta parole, à prendre un temps pour t'exposer, Seigneur, nos requêtes, nos remerciements, nos actions de grâce, pour te louer. Et que chacun d'entre nous, Dieu, on veut continuer de serrer ta parole dans nos cœurs, chérir cette relation-là avec toi. Jour après jour, Seigneur. C'est au nom de ton Fils qu'on te prie. Amen.